En dernière analyse, toute chose n'est connue que parce qu'on veut croire qu'on la connaît. Koan Zensouni. Teg prit une profonde inspiration. Gameux se trouvait droit devant, exactement à l'endroit où ses navigateurs avaient dit qu'elle serait lorsqu'ils émergeraient du pli spatial. À côté de lui, Stretchy, le front plissé, regardait les écrans du poste de commandement de son vaisseau amiral. Stretchy n'aimait pas qu'il se tienne debout sur ses pieds au lieu de demeurer juché sur ses épaules. Elle se sentait de trop au milieu de tout ce bric-à-brac militaire. Son regard ne cessait de se porter sur les champs de multiprojection du centre de commandement. Partout, le personnel ne cessait d'aller et venir, d'un secteur à l'autre, entrant et sortant des modules de transport avec un air de détermination efficace. Le corps bardé d'appareillages et de dispositifs ésotériques, il savait sans nul doute exactement ce qu'il faisait, alors qu'elle n'avait qu'une très vague idée de toutes leurs fonctions. Le tableau com qui relayait les ordres de Teg était sous ses mains flottant sur des suspenseurs. Il émettait un champ bleu pâle faiblement lumineux. Sur les épaules de Teg, le fer à cheval argenté qui le maintenait en liaison avec la flotte de combat était familier et léger, malgré sa taille et son poids relativement plus importants que dans l'expérience passée du Bachar, du fait de la petitesse de son corps actuel. Aucun de ceux qui l'entouraient ne doutait plus d'avoir affaire au fameux Bachar dans un corps d'enfant, et ses ordres étaient reçus avec un empressement total. Vu à cette distance, le système cible avait un aspect parfaitement ordinaire, un soleil avec ses planètes captives. Mais Gameux, au centre de l'objectif, n'était pas un monde ordinaire. Idaho y avait vu le jour. Son gola y avait été élevé, sa mémoire originale y avait été rétablie. Et c'est sur cette planète que j'ai été transformé. Teg n'avait toujours pas d'explication sur ce qu'il avait découvert en lui, à la suite des bouleversements déclenchés par son étonnante survie sur Gameux. Une rapidité physique qui le laissait drainer de toutes ses énergies, et le don de voir les non-vaisseaux, de les localiser à l'intérieur d'un bloc d'espace imaginaire. Il pensait que c'était peut-être une excroissance sauvage dans les gènes atréides. Certaines cellules marqueuses avaient été identifiées chez lui, mais pas leur rôle. Il s'agissait d'un héritage auquel les maîtresses généticiennes du Bene Gesserit étaient affrontées depuis des siècles. Il faisait peu de doute qu'elles considéreraient ces dons comme potentiellement dangereux pour elles. Elles pourraient les utiliser, mais il y perdrait certainement sa liberté. Il chassa provisoirement ses pensées de son esprit.
« Faites partir les leurs !»
De l'action, enfin. Il se sentit revêtir une armure familière. Il avait l'impression d'avoir gravi, une fois les préparatifs achevés, une éminence pour y respirer un peu. Les théories s'étaient articulées, les différentes possibilités avaient été soigneusement étudiées et les acteurs avaient été déployés, chacun connaissant son rôle à la perfection sur le théâtre des opérations. Chaque commandant d'unité concernée avait mémorisé les données importantes sur Gameux, les endroits où il pouvait requérir l'aide des résistants locaux, les refuges éventuels, les postes ennemis connus et les voies d'accès les plus vulnérables. Ils avaient reçu des instructions spéciales concernant les futards. Il ne fallait pas écarter la possibilité de se faire des alliés de ces bêtes humanoïdes. Les résistants qui avaient aidé le Gola Idaho à s'enfuir de Gameux avaient insisté sur le fait que les futards avaient été créés pour donner la chasse aux honorés matriarches et pour les tuer. Après avoir entendu les récits de Dortujla et des autres, on aurait presque pu, si c'était vrai, prendre les honorés matriarches en pitié, mais aucune pitié n'était due à celle qui n'en montrait jamais aux autres. L'offensive se déroulait selon le plan prévu. Les vaisseaux de reconnaissance avaient procédé à la mise en place du barrage de l'heure et les unités de combat s'étaient mises en position d'attaque. Teg était devenu à présent ce qu'il appelait l'instrument des instruments. Il était difficile de dire qui d'eux ou de lui commandait et qui obéissait. À présent, la partie la plus délicate. De nombreuses inconnues étaient à redouter. Un bon commandant en chef ne devait jamais oublier cela. L'imprévu était toujours de la partie. Les leurs approchaient de la zone de défense. Il vit les non-vaisseaux ennemis et les détecteurs de plis spatiaux, points brillants clairement déployés dans sa tête. Il les superposa aux positions de ses propres forces. Chaque ordre qu'il allait donner devait sembler conforme à un plan de bataille mis au point à l'avance par tout l'état-major. Il était heureux que Murbella ne soit pas présente. N'importe quelle révérende mère aurait eu vite fait de déceler la supercherie. Mais personne n'avait discuté l'ordre d'Audrade selon lequel Murbella devait attendre avec son escorte bien à l'écart de tout danger. Une mère supérieure en puissance, elle ne doit courir aucun risque. Les explosions des leurs commencèrent en un feu d'artifice destructeur entourant la planète au hasard. Teg se pencha en avant en faisant mine de se concentrer pleinement sur les projections.
Voilà la combinaison!
Il n'existait pas de telle combinaison, mais les paroles de Teg créèrent la foi et les battements de cœur s'accélérèrent. Personne ne doutait que le Bachar eût décelé le point faible de ses défenses. Ses mains coururent comme un éclair sur le tableau com, lançant ses vaisseaux à l'attaque en une gerbe foudroyante qui joncha l'espace sur son passage de fragments ennemis.
On peut y aller, c'est bon!
Il confia le cap du vaisseau amiral directement au système de navigation, puis se concentra entièrement sur le contrôle de tir. Les explosions silencieuses ponctuèrent l'espace autour d'eux, tandis que le vaisseau amiral nettoyait les éléments survivants des défenses périphériques de Gameux.
D'autres leurres,
ordonna-t-il. Des globes de lumière blanche éclatèrent dans les champs de projection. Au poste de commandement, toute l'attention se concentrait sur les champs et non sur le Bachar. L'inattendu. Teg, dont la célébrité était à juste titre fondée là-dessus, était en train de confirmer sa réputation.
Je trouve tout cela étrangement romantique,
dit Stretchy. Romantique? Où était la romance dans tout ça? Le temps de la romance était révolu, et cependant encore à venir. Une certaine aura entourait peut-être les projets de violence. Cela, il pouvait l'accepter. Les historiens, eux aussi, créaient leur propre forme de violence avec romance. Mais cela, c'était le temps de l'adrénaline. La romance détournait l'esprit des nécessités. Il fallait rester froid à l'intérieur, tracer une ligne nette et sans faille entre le corps et l'esprit. Tandis que ses mains parcouraient le tableau com, Teg comprit ce qui avait poussé Stretchy à parler. Quelque chose d'obscurément ancien sur la mort et la destruction qui se créait ici. L'instant était coupé du cours normal des choses. C'était un retour troublant aux anciennes structures tribales. Elle sentait un tam-tam à l'intérieur de sa poitrine et des voix qui psalmodiaient « Tue, tue, tue !» La vision de Teg lui montra les survivants de la flotte défensive ennemie qui s'enfuyaient en proie à la panique. Excellent. La panique se répand de manière contagieuse et affaiblit l'ennemi.
« Et voilà, Baronnie !» dit-il à haute voix.
Idaho l'avait converti à cet ancien nom harkonnen de la cité tentaculaire, avec son gigantesque bloc central de plastacier noir.
« Nous nous poserons sur le plat du Nord !»
Il prononçait les mots, mais c'était ses doigts qui distribuaient les ordres.
« Vite, maintenant !»
Durant les brefs instants où ils dégorgeaient leurs troupes, les non-vaisseaux étaient visibles et vulnérables. Teg contrôlait par son tableau com les mouvements de toutes ses troupes offensives et la responsabilité était grande.
Ce n'est qu'une feinte. Nous débarquons et nous rembarquons aussitôt après avoir infligé des pertes à l'ennemi. Notre véritable cible est Jonction.
L'admonition prononcée par Audrade avant leur départ était encore présente dans sa mémoire. Les honorés matriarches doivent recevoir une leçon sans précédent. Qui nous attaque sera châtié sévèrement. Qui nous pousse à bout subira d'énormes souffrances. Elles ont entendu parler des représailles Bene Gesserit. Notre renom est universel. Sans doute la reine araignée a-t-elle ricané en nous évoquant. Qu'on lui fasse rentrer ses ricanements dans la gorge.
Débarquez !
C'était l'instant de vulnérabilité. L'espace au-dessus d'eux demeurait vide, mais des colonnes de feu montaient à l'est, incurvées dans leur direction. Les canonniers du bord pouvaient s'en occuper. Il se concentra sur l'éventualité d'un retour des non-vaisseaux ennemis pour une attaque suicide. Les projections du poste de commandement montraient les vaisseaux béliers et les transports de troupes en train de se déverser des soutes. L'unité de choc, un commando d'élite à bord de véhicules blindés, avait déjà pris position tout autour du vaisseau. Déjà, les œil-com mobiles commençaient à étendre son périmètre d'observation et à relayer les détails intimes du choc violent. La communication était la clé d'un commandement efficace. mais elle faisait aussi visualiser des scènes de destruction sanglante.
Débarquement terminé!
Le signal résonnait dans tout le poste. Il s'éleva aussitôt du plat et reprit une position d'attente dans une totale invisibilité. À présent, seules les liaisons com pouvaient offrir à l'ennemi un moyen de les localiser, et les pistes étaient brouillées par un réseau d'émetteurs factices. Une projection montrait le monstrueux bloc noir de l'ancien centre Harkonnen. Fait de métal anti-reflet et destiné à l'emprisonnement des esclaves, il servait aussi de résidence-jardin sur toute l'étendue de l'étage supérieur à l'élite Harkonnen. Les honorés matriarches lui avaient rendu son ancienne fonction de prison. Trois vaisseaux béliers géants apparurent dans le champ de vision de Teg.
« Nettoyez-moi le sommet de ce truc !» ordonna-t-il. « Rasez tout, mais sans trop abîmer l'édifice lui-même. »
Il savait que ses précisions étaient superflues, mais les donnait pour la détente que les mots lui procuraient. Tous ceux qui étaient sous ses ordres savaient exactement ce qu'il désirait.
« Relayez-moi les rapports !» commanda-t-il.
Les informations commencèrent à affluer du fer à cheval qu'il portait sur l'épaule. Il passa en mode secondaire. Les œil-com lui montrèrent ses troupes en train de nettoyer le secteur. Ils étaient maîtres du terrain et de l'espace aérien sur une cinquantaine de kilomètres au moins. Beaucoup plus qu'ils ne l'avaient espéré. Ainsi, les honorés matriarches gardaient leurs moyens lourds hors de la planète et n'étaient pas du tout préparés à une attaque surprise. Attitude qui n'était pas nouvelle et qu'il fallait remercier Idaho d'avoir prédite. Le pouvoir les aveugle. Elle croit que le matériel lourd est pour la défense spatiale et que les engins légers suffisent à assurer la protection au sol. Les armes lourdes peuvent être transférées à terre à la demande. Inutile de les garder au sol. Elles consomment trop d'énergie. De plus, sachant que tout cet armement tourne au-dessus de leur tête, les populations captives se tiennent beaucoup plus tranquilles. Les conceptions d'Idaho en matière d'armement avaient un effet dévastateur. Nous avons trop tendance à nous rattacher à des préconceptions. Un projectile reste un projectile, même s'il est spécialement miniaturisé en vue de contenir des substances toxiques ou bactériologiques. Les innovations dans le domaine des équipements protecteurs facilitaient la mobilité. Chaque fois que c'était possible, ils étaient incorporés aux uniformes. Et Idaho avait remis au goût du jour les anciens boucliers, avec leur formidable capacité destructrice lorsqu'ils étaient touchés par un rayon laser. Des boucliers montés sur suspenseurs avaient été dissimulés dans des leurres à silhouette humaine, en fait de simples uniformes gonflables, répartis en avant des troupes. Le feu ennemi déclenchait des explosions atomiques sans retombée qui nettoyaient d'un seul coup de larges secteurs. Est-ce que Jonction sera une proie aussi facile? Teg en doutait. Les nécessités entraînaient une rapide adaptation aux nouvelles méthodes. Elles peuvent faire descendre des boucliers sur Jonction en 2 jours. Et elle n'aurait aucun scrupule à s'en servir. Les boucliers avaient dominé toute l'histoire du vieil empire à cause de cet étrange assemblage tout-puissant de mots qu'on appelait la Grande Convention. Les honnêtes gens ne faisaient pas mauvais usage des armes de leur société féodale. Si quelqu'un trahissait la Convention, ses pairs se retournaient aussitôt contre lui avec la plus grande violence. Bien plus encore, il y avait l'intangible et sacro-sainte « face » que certains appelaient « honneur ». Perdre la face? Perdre ma position au sein de la meute? Plus important pour certains que la vie elle-même.
Tout cela ne nous coûte pas beaucoup, lui dit Stretchy.
Elle commençait à avoir une âme de chroniqueur militaire, beaucoup trop insipide au goût de Teg. Stretchy voulait dire qu'ils avaient perdu peu de vie humaine jusqu'à présent, mais ses paroles contenaient peut-être plus de vérité qu'elle ne pouvait le savoir. Il est difficile d'admettre que des engins à bon marché puissent accomplir le travail aussi bien, avait dit Idaho. Mais ils constituent pourtant une arme encore plus puissante. Si votre armement ne vous coûte qu'une fraction de l'énergie dépensée par votre adversaire, vous possédez un levier puissant qui peut faire toute la différence en cas d'inégalité accusée des chances. Prolongez le conflit et vous dévorez la substance même de votre ennemi. Il finit par s'écrouler parce qu'il ne peut plus assurer le contrôle de ses travailleurs et de sa production.
« Nous pouvons commencer à nous replier !»
dit-il en se détournant de la projection, tout en répétant l'ordre avec ses mains.
« Je veux des rapports détaillés sur nos pertes, aussitôt que... »
Il s'interrompit et se retourna, le regard attiré par un mouvement soudain. Murbella.
Son image projetée occupait tous les champs comme du poste de commandement. Sa voix résonnait, froide.
« Pourquoi ignorez-vous les rapports de vos propres unités ?»
Court-circuitant son tableau com, elle fit apparaître dans le champ un commandant de secteur saisi au beau milieu d'une phrase. « D'instructions précises, je suis obligé de repousser leur requête. »«
Répétez !»
ordonna Murbella. Le visage en sueur du commandant de secteur se tourna vers son œil com mobile. Le système com compensa et il parut regarder Tech droit dans les yeux. « Je répète mon message. J'ai ici 3 personnes qui se disent réfugiées et réclament le droit d'asile. Leur chef affirme qu'il a conclu alliance avec le Bene Gesserit et nous demande d'honorer nos engagements, mais en l'absence d'instructions précises, je suis...
« Qui est cet homme ?»
demanda Tech. « Il se fait appeler le Rabbi. » Tech fit mine de reprendre le contrôle de son tableau com.
« Je ne connais aucun... « Attendez !»
fit Murbella en le court-circuitant une fois de plus.
« Je me demande comment elle fait ça. »
De nouveau, la voix de Murbella emplit tout le poste.
« Transférez cet homme et ceux qui l'accompagnent à bord du vaisseau amiral. Ne perdez pas de temps !»
Elle réduisit le relais périphérique au silence. Tech était indigné, mais en situation de désavantage. Il choisit l'une des multiples images de Murbella et la fixa d'un air courroucé.
« Comment osez-vous vous mêler ? Vous n'avez pas les informations nécessaires. Le rabbi est dans son droit. Préparez-vous à l'accueillir avec les honneurs qui lui sont dus. »« Expliquez-moi. » »« Pas question. Vous n'avez pas besoin de savoir. J'ai pris la décision qui convenait en voyant que vous ne répondiez pas à votre officier. »« Il se trouve dans un secteur de diversion. Pas assez important pour... »« La demande du rabbi est prioritaire. Vous êtes aussi mauvaise que la mère supérieure. » Pire, peut-être. À présent, écoutez-moi bien. Accueillez ces personnes à votre bord et préparez-vous à recevoir ma visite. C'est impossible. Vous ne devez pas quitter l'endroit où vous êtes. Bachar, cette nouvelle situation exige la présence d'une révérende mère. Le rabbi dit que les siens sont en danger pour avoir donné temporairement asile à la révérende mère Lucille. Acceptez ou écartez-vous. « Dans ce cas, laissez-moi d'abord rembarquer mes hommes et me replier. Nous nous donnerons rendez-vous quand nous serons au large. Accordé. Mais traitez ces personnes avec courtoisie. Et maintenant, retirez-vous de mes projections. Vous m'avez rendu aveugle et ce n'est pas malin. Vous tenez la situation bien en main, Bachar. Durant cet intermède, un autre de nos vaisseaux a recueilli 4 futards. Ils sont venus nous demander de les conduire à des belluaires, mais j'ai donné ordre de les enfermer. Traitez-les avec une extrême prudence. »
Les projections du poste de commandement reprirent leurs fonctions militaires. Tech rappela ses unités. Il était furieux, et il lui fallut plusieurs minutes pour retrouver le sens du commandement. Murbella se rendait-elle compte de la manière dont elle sapait son autorité? Ou fallait-il voir dans son intervention la mesure de l'importance qu'elle attachait à ce groupe de réfugiés? Dès que la situation fut normale, il confia la direction des opérations à un officier et descendit voir ces réfugiés importants. Que représentait-il de si vital pour que Murbella eût pris le risque d'intervenir comme elle l'avait fait? Il se trouvait dans une soute servant au transport des troupes, figé à l'écart sous la surveillance d'un officier prudent. Qui sait ce qui peut se cacher parmi ces inconnus? Le rabbi, reconnaissable à la déférence que lui témoignait le commandant d'unité, se tenait aux côtés d'une femme en robe brune. C'était un homme de petite taille, barbu, coiffé d'une calotte blanche. La lumière crue de la soute lui donnait l'air d'un vieillard. La femme se protégeait les yeux d'une main. Le rabbi était en train de parler et ses paroles devinrent audibles au moment où Tech approcha. La femme était sous le feu d'une attaque verbale.
« Les orgueilleux seront rabaissés !»
Sans que sa main quitte sa position défensive, la femme répondit
« Je ne tire aucun orgueil de ce que je porte en moi. »
Ni des pouvoirs que cette reconnaissance peut vous apporter. »
D'une pression des genoux, Tech ordonna à Stregi de s'arrêter à une dizaine de pas. L'officier le regarda mais demeura en position défensive, prêt à intervenir si les autres profitaient de la diversion. Un bon soldat. La femme courba le front encore davantage et se cacha les yeux de la main en disant
« La connaissance ne nous est-elle pas offerte pour que nous la mettions au service d'une cause sacrée ?»«
Ma fille !» s'écria le rabbi en se raidissant. « Quoi que nous puissions apprendre dans l'intention de nous en servir, ce ne saurait être quelque chose de grand. Ce que nous appelons la connaissance, même si cela représentait de quoi remplir le cœur d'un homme humble, ne serait encore rien à côté d'une graine au fond d'un sillon. »
Teg répugnait à intervenir. Quelle manière archaïque de s'exprimer. Ce couple le fascinait. Les autres réfugiés écoutaient la conversation avec une attention captivée. Seul le commandant d'unité paraissait insensible, les yeux fixés sur les étrangers, adressant de temps à autre un signe de main à l'un de ses hommes. La femme gardait la tête respectueusement baissée, la main levée pour se protéger, mais elle se défendait toujours.
Même une graine perdue au fond d'un sillon peut apporter la vie.
Les lèvres du rabbi se pincèrent en une ligne sinistre.
Sans eau et sans soin, c'est-à-dire sans le verbe et la bénédiction, il ne peut y avoir de vie.
Un gros soupir secoua les épaules de la femme qui répondit, sans pour cela abandonner son étrange attitude de soumission.
J'entends et j'obéis, rabbi. Cependant, je me dois d'honorer cette connaissance qui m'a été inculquée, parce qu'elle contient l'admonition même que vous venez de formuler.
Le rabbi posa une main sur son épaule.
Dans ce cas, ma fille, transmettez-la à ceux qui en ont besoin, et puisse le mal ne jamais entrer par la même porte que vous.
Le silence qui s'ensuivit indiqua à Teg que la discussion venait de prendre fin. Il fit avancer Stregi. Avant qu'elle eût le temps de faire un pas, cependant, Murbella la dépassa en coup de vent et inclina la tête devant le rabbi tout en fixant la femme d'un regard intense.
« Au nom du Bene Gesserit et de la dette que nous avons envers vous, je vous souhaite la bienvenue et déclare vous offrir sanctuaire. »
La femme abaissa alors le bras et Teg vit briller dans le creux de sa main des lentilles de contact. Puis elle releva la tête et il y eut des exclamations de surprise tout autour d'elle. Ses yeux avaient la couleur bleu sur bleu des adeptes de l'épice, mais il possédait aussi cette force intérieure qui marque toutes celles qui ont survécu à l'agonie. Murbella l'identifia instantanément.
Une révérende mère sauvage.
Depuis l'époque de Dune et des Fremen, aucun cas semblable n'avait été signalé. Elle fit une courbette devant Murbella.
Je m'appelle Rebecca. Mon cœur est plein de joie en votre présence. Le rabbi pense que je ne suis qu'une oie stupide, mais j'ai avec moi un œuf d'or, car je vous apporte tout l'Empada. 7 622 014 révérendes mères qui vous appartiennent de droit.